Je voudrais, dans la prédication, d'abord, pendant un premier temps, poser un petit peu le cadre, et puis avant d'arriver au point qui me retiendra le plus. Et ça sera dans la lettre aux Éphésiens, ceux qui voudraient suivre en même temps. Je lirai par petits morceaux, sauf pour le passage sur lequel je m'attarderai. Donc dans la lettre aux Éphésiens, et je lirai dans la version du Summer, de mon côté. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ, commence la lettre. Que la grâce et la paix. Et la grâce, eh bien, c'est d'elle dont Paul va faire un portrait, j'ai envie de dire spectaculaire, dans les premiers chapitres. Parce que toute la lettre, elle est marquée, elle est pénétrée de ce sens de la grâce. La grâce y est dépeinte, y est déployée. Je continue juste la lecture en sautant quelques mots. Dieu nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit. Avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il a voulu adopter par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bonté. Verset 17. Je demande que Dieu illumine ainsi votre intelligence pour que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager. Chapitre 2. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et au chapitre 2 et 3, il fait en fait le portrait de ce qu'il qualifie au chapitre 3 de mystère. Alors il faut entendre par là un projet qui était dans la tête de Dieu, mais bon, trop tard, je l'ai déjà dit, mais qui est donc était un projet de Dieu, mais qui est maintenant rendu manifeste, visible, apparent. Et ce projet, ce mystère, c'est au travers de Jésus-Christ. D'unir, au travers de l'union à Jésus-Christ, d'unir à lui deux peuples qui jusque-là étaient étrangers l'un à l'autre, étaient hostiles l'un à l'autre, les Juifs et les non-Juifs. Le projet de Dieu, c'était de faire la paix, que la grâce et la paix vous soient accordées. Et le chapitre 2 dit, il est, en parlant du Christ, il est notre paix. Et nous, ça nous paraît peut-être loin, mais à l'époque du Nouveau Testament, c'était une paix impensable. Le lecteur du Nouveau Testament sait combien ça a choqué à l'époque, autant, surtout du côté juif. Tant la fracture était forte, tant l'habitude était prise de la distance. L'amour de Dieu étendu à tous les êtres humains, hommes et femmes, petits et grands, quelle que soit leur race, pour fonder une seule, une nouvelle humanité, à partir des juifs et des non-juifs, les unir en un seul corps, supprimant ce qui faisait d'eux jusque-là des ennemis. Et la fin, en ayant dépeint ce portrait, à la fin du chapitre 3, Paul en arrive à l'admiration. Paul en arrive à l'émerveillement. Il le dit dans la prière. Prière pour que les destinataires de la lettre, les Éphésiens et les autres, les Villars, les Bergaliens, et puis vous mettrez le nom qui correspond à votre commune, parce que je ne vais pas aller beaucoup plus loin que les Villars et les Bergaliens, pour que tous connaissent avec tous les autres croyants l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance. Combien cet amour de Dieu, cet amour du Christ est grand et large et profond, élevé, et il prie pour qu'il soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Et on peut imaginer combien celui qui prononce ces mots peut être pénétré lui-même, peut être traversé, percé, transpercé de cette perspective, parce qu'elle a été, vous le savez probablement, mais bouleversante pour lui. C'est lui le talonneur, c'est lui le persécuteur, c'est lui l'exécuteur de ceux qui étaient attachés au Christ à l'origine. Et c'est lui qui a été percé, qui a été talonné, qui a été bouleversé par Jésus. Et la grâce dont il parle, c'est pas un mot, c'est quelque chose qui l'a rejoint dans sa peau, dans ses tripes, au cœur d'un moment de grâce. Et du coup, son action de grâce, elle jaillit d'une présence, elle jaillit d'une conscience intime de la grâce. Le mot grâce n'est pas un vain mot pour lui. Et c'est là que Paul nous donne à entendre un ensemble d'appels au début du chapitre 4. Mais le chapitre 4, lui aussi, il est déjà marqué tout de suite ou assez tôt par la mise en valeur des dons. Et quand on dit dons, à nouveau, on dit grâce. Des dons de Dieu pour l'Église. Il dit les uns sont apôtres, les autres prédicateurs de l'Évangile, les autres enseignants. Il continue. Et je lis chapitre 4, verset, je ne sais plus combien, 10, 11, quelque chose comme ça, ou un peu pas après, enfin un peu autour. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service, à grandir vers le Christ. Et du coup, c'est en pleine conscience de ces dons, donc qui habitent toute la lettre, que Paul appelle au début du chapitre 4, « Je vous demande de vous conduire de manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Et c'est dans ce mouvement-là qu'on arrive au début du chapitre 5, dont je vais lire plusieurs versets, enfin, une bonne partie. Je commence au verset 2, en fait. Chapitre 5, verset 2. Et on est étonné de ce qu'on lit après ce portrait. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question parmi vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides, ou les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, aucun de ces hommes n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur, ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que font ces gens-là, font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses seront démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière et lumière. De là viennent ces paroles, et il cite un texte biblique. Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillons donc à notre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Jusqu'ici la lecture, et j'y reviendrai à plusieurs reprises. Et donc je dis, il y a quelque chose d'étonnant, peut-être même un peu désolant, ce passage finalement de la grâce à l'immoralité. Et il y a peut-être un triple étonnement. Peut-être d'abord le sujet abordé, c'est il parle des choses dont il ne faut pas parler. l'immoralité, les pratiques dégradantes, la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question parmi vous. C'est un paradoxe parce qu'il ne doit pas en être question, mais en même temps, il en parle. Au chapitre d'avant, chapitre 4, Paul avait énoncé quelques lignes du même ordre, des propos sur le mensonge, des propos sur le vol, sur les mauvaises paroles, sur ces espèces de mauvaises herbes qui poussent parfois dans notre jardin, dans ce même jardin où la grâce de Dieu est à l'œuvre pourtant. Mais à présent, c'est plus que des mauvaises herbes, c'est plus que c'est plus que ça. C'est de boue dont il est question. Qu'il n'en soit pas question parmi vous. Et puis il dit donc un peu plus loin, je l'ai lu, c'est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Et dans l'église où il ne devrait pas y avoir à en parler, eh bien il n'est pas viable pour Paul de le taire non plus. Paul en parle, Paul nous en parle à nous aussi. À l'âge où les propos grossiers, stupides, équivoques n'ont pas disparu, à l'âge peut-être où on continue de repousser les limites des tabous dans nos propos, dans nos actes, dans ce qu'on appelle les arts, peinture, cinéma, où on repousse les limites de ce qu'on peut montrer ou de ce qu'on peut dire, tant et si bien d'ailleurs qu'on se demande parfois s'il reste encore des choses qui peuvent nous choquer, des limites à repousser. À l'âge où plus que ça, on met même sa fierté à le faire, comme si c'était un signe d'émancipation, un signe de bonne santé, un signe de libération. Et à l'âge où celui qui s'en dirait choqué s'expose à être mis au pilori, comme un réactionnaire, à l'âge où il se verra peut-être moqué et écarté, eh bien Paul en appelle à se placer à contre-courant et à reconnaître là ce qui est de l'ordre de l'inconvenant. Alors Paul en parle, et c'est peut-être le deuxième élément étonnant, c'est cette imprécision, l'allusif, peut-être même le flou. J'ai envie de vous demander, mais comment vous faites-vous pour parler de ce dont on ne doit pas parler ? Alors Paul fait bien comprendre ce dont il parle. Il emploie des mots d'un sens général, il parle de débauche, il parle d'impureté, il parle de convoitise. Et en même temps, il ne s'engage pas dans une sorte de catalogue précis des vices, un catalogue de caractéristiques très, très détaillées. Ce qu'il fait en même temps, c'est qu'il renvoie à des actes, il renvoie à des paroles prononcées, et plus que ça, on l'entend dans le mot convoitise, il fait ce que Jésus avait fait avant lui, ce qu'il renvoie derrière les actes, derrière les mots, il renvoie à ce qu'il y a dans le cœur, il renvoie aux intentions, à des pensées. Tant ce qui ne convient pas ne relève pas que des gestes qu'on pose, mais ça émane de l'intérieur de nous, de ce que nous avons, de ce que nous savons au plus profond de nous-mêmes, et dont parfois seul l'historique de notre ordinateur individuel gardera la trace, si nous ne détruisons pas l'historique par précaution. Est-ce parce que peut-être être plus précis dans ce cadre aurait été malsain ? Je ne sais pas. Je me dis peut-être, c'est ce qu'on ressent devant certains apôtres de la pureté, qui sont militants pour la pureté avec une telle intensité qu'on se demande, dans le feu qui les anime, si je puis dire, quels sont les ressorts qui les animent pour qu'ils y reviennent avec tant d'insistance, pour qu'ils dénoncent le mal avec tant de ferveur. Paul ici en dit assez sans trop en dire, avec, j'ai envie de le voir ainsi en tout cas, une retenue, une pudeur. Alors le lecteur de la Bible sait bien que Paul, quand il a besoin d'être plus explicite, peut l'être. Il dénonce dans l'église de Corinthe, par exemple, ceux des croyants qui avaient des relations avec des prostituées. Donc, voilà. Il en parle sans gêne. Et en même temps, devant ce qui est inconvenant, c'est la pudeur qui est de mise. À cette pudeur s'articule, c'est peut-être le dernier élément qui pourra étonner, je ne sais pas, et en même temps une vigueur. Et je pense ici à ce que j'appellerais un dualisme. Un dualisme, c'est l'opposition entre deux choses opposées. Il n'y a pas de milieu présenté. Ténèbres, lumière. Qu'on trouve d'ailleurs au chapitre 2 aussi. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes. Vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde. Là, on a lu, autrefois, vous apparteniez aux ténèbres. À présent, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous comme des enfants de lumière. Ça m'a frappé parce que c'est un langage qu'on trouve beaucoup chez Jean, dans l'évangile de Jean ou dans les épîtres. C'est vraiment sur ce mode-là qu'il s'exprime. On le trouve moins dans le Nouveau Testament ailleurs, mais on le trouve ici. Et la mise en garde de ceux à qui il présente la grâce, elle est très vive. Ne vous faites pas d'illusions. Pas de place dans le royaume du Christ et de Dieu pour les débauchés, pour les impurs, pour les cupides. Il reprend la liste des personnes qu'il a mentionnées avant. Et il me semble important de l'entendre dans ce contexte de l'Avent, où nous sommes parfois tentés de faire ce que j'appellerais un certain angélisme ecclésial, où nous sommes tentés parfois de faire de la grâce, de la lumière, un petit peu des denrées à bon marché, apprivoisées, disponibles entre la jolie crèche et le sapin de Noël, domestiquées un peu comme cette allumette que l'on craque en allumant les bougies de l'Avent. C'est la lumière dans la nuit. C'est tout doux à regarder. C'est Noël. C'est tout doux à allumer. Mais comme si, au risque de, en tout cas, être objet de grâce pouvait conduire à vivre au rabais. On va pas parler de ce qui fâche. On fait comme si ça n'existe pas. Comme si la lumière de la bougie était juste à regarder comme jolie. Et peut-être qu'il faudrait dire, si on voulait pousser le bouchon, eh bien, mettons notre doigt dessus, là, pendant quelques secondes, et voyons ce que ça fait, la lumière de la bougie. Ça m'est arrivé une fois. Enfin, j'ai pas laissé quelques secondes, mais ça m'a suffi. Et c'est bien ce que Paul dit, avant, ténèbres, maintenant, lumière. Et c'est le jour et la nuit. C'est le cas de le dire. Les chrétiens sont invités à être des personnes qui sont consacrées à Dieu et qui portent dans leur vie la marque de la sainteté de Dieu. Alors nous qui nous prétendons tels, vivons comme tels, vivons de mieux en mieux comme tels. Alors aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la modestie, sur l'humilité du chrétien. Il ne doit pas se croire meilleur que les autres. Et nous connaissons peut-être tous l'arrogance de ceux qui se présentent comme meilleurs que les autres, qui nous regardent de haut, du haut de leur piété, du haut de leur sainteté, de leur fierté peut-être. Et ceux qui se prétendent élus, qu'il s'agisse de peuples ou qu'il s'agisse de personnes, peuvent facilement devenir des peuples ou des personnes qui sont imbuvables, qui sont supérieurs dans leur paternalisme. Et il pourrait être facile de faire à Paul ici ce procès avec le langage qu'il tient, ce dualisme justement dans son langage. Mais faire ça, je crois qu'à faire ça, on oublierait en même temps combien la lettre que nous avons survolée, elle est porteuse précisément du contrepoison, du contrepoids que constitue ce portrait de la grâce. Et ces invitations, elles sont posées sur ce soubassement-là, sur ce soubassement de la bonté de Dieu pour des personnes qui n'étaient pas dignes de ça. Paul le montre ailleurs, il n'est pas vraiment prêt à se vanter. D'ailleurs, c'est rigolo, enfin c'est pas rigolo, mais c'est pas le mot juste. Mais quand il se vante, c'est plutôt de ses faiblesses. Et il lui arrive précisément au nom de ses faiblesses de prendre le contre-pied de super apôtres qui se prétendait très fort et très victorieux. Ça, c'est toute la lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens, par exemple. Donc, le portrait que Paul dresse est porteur de ce contrepoison, même si parfois, dans les comportements chrétiens, le contrepoison est peu apparent. Cela étant dit, ne perdons pas de vue qu'il ne s'agit pas ici de se croire meilleur que les autres, ou de se prétendre meilleur que les autres. Parce qu'on pourrait dire qu'il s'agit de l'être. Et c'est pas une option. Il n'y a pas de place ici pour la minimisation, pour la relativisation, et encore moins pour la complicité. Et quand il est question de lumière, ici, c'est à cela que nous sommes convoqués. Je reprends le chapitre 4, verset 1, qui ouvre en fait toutes les invitations qui vont jusqu'à la fin de la lettre. « Je vous demande de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Et le dernier passage que j'ai lu à la fin, Paul en appelle simplement, tout bonnement, à notre bon sens, « Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. » En tout cas, pour tous ceux qui, parmi nous, font profession de foi, ces paroles s'adressent à nous. Alors je crois que nous avons aussi à l'entendre, et peut-être, ou probablement, je ne sais pas, ça dépend des uns et des autres, nous avons du chemin aussi à faire dans ce sens. Vivant en ce moment dans les jours où le calendrier nous invite à faire mémoire du don de grâce de Dieu, veillons simplement, pour ceux d'entre nous qui sont attachés à Jésus-Christ, à être bien en route et à être bien en route dans la bonne direction. Et si nous sommes en recherche, je vous invite à, avant de chercher à voir comment ça se traduit, à entendre cet appel de la grâce de Dieu qui est dit là au départ. Avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, peut-être vous aussi. Il vous a choisi et il vous appelle aussi. Je vous invite à entendre cet appel-là de l'amour de Dieu. Et dans un sens d'engagement de foi, pour ceux qui veulent l'exprimer, je vous inviterai, si vous voulez bien, à vous lever, ou vous pouvez rester assis si vous préférez, et à chanter « Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi, que ton règne vienne ».